Alors, chers auditeurs, ne lorgnez pas sur moi comme ça parce que j'ai une toge si vous regardez la version filmée. Merci. On remonte le temps, on remet les pendules à l'heure. À suivre, c'est votre émission d'histoire transhistorien, tout de suite après la page de publicité.
L'information, aujourd'hui, c'est savoir ou comprendre ?
L'information, c'est savoir et comprendre. Toute information, chaque mercredi. Savoir, avec les journalistes de Transistor. Leur savoir, leur récit, près de l'ENS comme au bout du monde. Et pour mieux comprendre la complexité de l'actualité, les grandes signatures de Transistor qui analysent pour vous la vie politique, économique et sociale. L'info, tous les mercredis, c'est sur transistor.fr. Vous cherchez à toucher des consommateurs d'avenir, à conquérir l'élite intellectuelle, à élargir votre clientèle au sommet? Agissez sans plus attendre.
En effet, dans le cadre de la loi d'autonomie des universités, les ENS s'ouvrent à la publicité. La régie unique en slogan est votre contact pour poser des panneaux publicitaires, diffuser des spots radio ou financer des événements. Se faire bien voir et se faire voir bien, c'est notre métier. Alors n'hésitez plus, en slogan 04 47 20 0 0 0 1.
De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école Buissonnière qui m'a paru la meilleure.
Notre école est normale, mais pas nos journalistes. Tous les mercredis sur Transistor, leur savoir, leur récit, pour vivre notre vie d'étudiant à Lyon, à Descartes, à Monod, nous analyserons la vie politique, économique et sociale, mais surtout festive de l'école. Notre école, tous les mercredis, c'est sur transistor.fr.
Alors, donc, vous aurez reconnu les voix de Nicolas, Florent et Céline. Merci d'être avec nous sur Transistor. Tout de suite, Mathilde, Clément et moi-même. Et ça parle de sexe, ça parle d'amour, ça parle de Grèce antique. Bienvenue dans Transistorien.
Vous écoutez Transistorien, l'émission d'histoire à retrouver chaque semaine sur Transistor.
Car ces siècles, on les associe souvent à une époque bien barbare et peu civilisée.
Qu'est-ce qui est pire qu'un historien ? Deux historiens. Deux historiens en couple. Deux historiens en couple qui s'aiment et qui font de l'histoire ensemble.
L'histoire continue de se dérouler avec la même ligne fondamentale.
Quelle image faussée pourtant. Ce n'est même plus du cliché mais bien de l'erreur.
Comme lorsqu'au cinéma, la pellicule se déchire et laisse place à un intervalle de lumière éblouissant.
Une véritable histoire dans notre grande histoire.
Des causes, des conséquences, des logiques, des tendances. Et pas des fichues dates.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Marie, Clément et moi-même sommes heureux de vous retrouver en direct pour la première fois sur les ondes de Transistor. Et c'est la magie de la radio filmée, vous dévoiler enfin nos costumes d'époque et nos charmants visages. En parlant de choses sensuelles, cette semaine, Clément nous amène nous faire voir chez les Grecs.
Merci Mathilde. Alors, vous l'avez vu, chers spectateurs, aujourd'hui c'est un transhistorien un peu particulier, hein. Parce que bon, un vrai numéro en situation, on s'est mis sur notre 31, on a revêtu des toches pour vous emmener en Grèce ancienne quand même. Vous le savez, dans les pendules à l'heure, on aime les clichés, on les aime beaucoup, peut-être un peu trop. Et pour ouvrir l'émission cette semaine, croyez-moi, c'est du lourd niveau cliché. Alors, il ne s'agit pas d'un extrait de film ou d'un extrait de documentaire comme on le fait d'habitude dans les pendules à l'heure, mais un tableau. Un tableau qui se trouve au musée d'Orsay. Regardez-moi un petit peu cette merveille.
Oh là là, de très beaux corps, je sens que je vais aimer cet épisode.
Alors Marie, est-ce que tu veux bien nous le décrire un petit peu pour les spectateurs, pour les auditeurs qui ne sont qu'auditeurs ?
Ah ben oui, alors c'est un tableau du 19e, assez pompier, qui représente Platon dans une toge blanche et autour de lui tous ses élèves qui, allez savoir, sont dans des positions tordues complètement improbables et tous à poil forcément.
Alors, une petite réaction Mathilde face à tous ces corps ou...
Ah oui, vraiment, vraiment très intéressée Clément, tu me fais aimer l'histoire antique.
Ah, je le savais. Alors, je vous dévoile l'identité de cette toile, hein. Son nom c'est l'école de Platon. C'est un tableau de Jean Delville qui date, comme Marie vous l'a dit, de la fin du 19e siècle. Alors, l'école, moi j'ai quelques doutes sur ce qu'ils y font dans cette école, franchement. Bon. Puis quand on voit ça, on se dit que ça fantasmait bien sur les Grecs, à la fin du 19e. Et aujourd'hui, bah, ça fantasme toujours beaucoup, hein, sinon on ne serait pas là. Bon, alors là, c'est drôle, mais parfois, aujourd'hui, c'en est vraiment triste. Écoutez plutôt.
Il n'y a plus de renouvellement de la population, quoi, ça rime. On voit un pays d'homo, et bien là, dans 10 ans, il n'y a plus personne. Non, c'est stupide. Regardez dans l'histoire, la Grèce, ben c'est une des raisons de sa décadence à l'époque. Décadence totale. Ben bien sûr, c'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt du développement des enfants, c'est l'arrêt de l'éducation, c'est l'arrêt de... C'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation, énorme.
Alors, merci monsieur Dassault, hein. Oui, le sénateur Dassault, il faut peut-être le préciser. En tout cas, le bougre est toujours présent pour nous donner la bonne parole. Et quel dommage qu'il ne nous écoute pas, quoique on ne sait jamais, parce que ce qu'il vient de dire, ça me fait penser à une petite anecdote qu'il trouverait sûrement très cocasse. Et cette anecdote, je la tiens d'Aristote, figurez-vous. Parce que le grand homme, le philosophe, dans sa politique, eh bien, il nous rapporte qu'en Crète, l'homosexualité était encouragée, attachez vos ceintures, elle était encouragée pour réguler la démographie.
Ah oui, réguler la démographie, parce qu'il y avait trop d'enfants en Grèce ?
Bah oui, c'est un peu ça en fait. La Grèce ancienne, c'est une société où la natalité comme la mortalité sont assez fortes et donc il y a un potentiel pour une explosion démographique. Tout cela en fait pour nous rappeler qu'il faut appréhender la sexualité des Grecs avec des catégories et des normes sociales qui sont différentes des nôtres.
Et puis, vous l'avez entendu, ce cher Serge, hein, en Grèce, plus d'éducation des enfants. Hein, c'est bien connu.
Tout se perd.
Bah, il est bien ignorant quand même, notre Serge. Parce qu'il semble qu'en Grèce, l'homosexualité s'inscrive dans tout un ensemble de pratiques initiatiques et pédagogiques, tenez-vous bien. Hein. Loin des clichés auxquels nous sommes habitués, la pédérastie, qui a donné son nom à beaucoup d'insultes, hein, eh bien, elle se veut d'abord un rite d'initiation d'un jeune homme par un homme plus âgé. C'est ce que dit notamment Bernard Sergent, un historien et anthropologue, qui montre que dans la mythologie grecque, eh bien, les cas de relations homosexuelles participent toujours d'une certaine démarche initiatique. Par exemple, il en donne beaucoup, le mythe qui fonde l'homosexualité à Sparte, c'est celui de Wakynthos, un jeune homme que le dieu Apollon aime, éduque et tue. Et après cette mort initiatique, eh bien ce jeune homme revient à la vie. Et c'est un mythe qui est à l'origine d'une fête spartiate, la fête, je vous le donne en ville, des Wakynta.
Alors ça c'est bien pour l'aspect mythique, mais pour l'aspect plus social, cette initiation elle s'exprime comment ?
Eh bien, cela s'exprime dans des formes institutionnelles. Et ce que dit Bernard Sergent de la poésie de Sappho est assez révélateur. Alors Sappho, on en a tous entendu parler, c'est la poétesse de l'île de Lesbos, elle a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, et elle est connue pour ses fragments de poèmes érotiques qui mettent en scène des jeunes femmes, d'où le terme de lesbianisme. Eh bien, figurez-vous que cette femme, Sappho, elle dirigeait une école dans laquelle les jeunes filles de la haute société apprenaient la danse et la musique, tout ce qu'il faut pour être convenable. Alors, loin des clichés qu'on peut avoir sur les orgies et sur une sexualité débridée, on est bien ici dans le cadre des pratiques sociales d'un groupe aristocratique.
Donc ça, c'est vrai pour les femmes, et du côté des hommes, ça donne quoi, donc, la pédérastie ?
Alors, chez les hommes, bah, ça prend aussi une forme institutionnelle. Il s'agit pour un jeune homme d'être formé par un homme plus âgé, et cela prend un caractère vraiment militaire. Alors, à Sparte, par exemple, l'éraste, celui qui aime, est un véritable maître. Il doit former le jeune avec lequel il est lié, son éromène, et si le jeune commet une faute, dans le cadre de la cité par exemple, eh bien, c'est le maître qui endosse la responsabilité de la faute. Et quand les philosophes comme Platon critiquent cette homosexualité, c'est quand elle sort de ce cadre rituel, quand on se met par exemple à entretenir un jeune homme sans qu'il y ait d'initiation militaire ou d'initiation tout court derrière.
D'accord, et ces duos maître-élève, ils se battent l'un à côté de l'autre du coup ?
Bon, alors à Sparte, j'avoue, je ne sais pas, mais on a un cas intéressant avec Thèbes et le bataillon sacré. Alors le bataillon sacré, c'est une troupe d'élite de la ville de Thèbes au 4e siècle avant Jésus-Christ qui a remporté pas mal de batailles importantes. Et ce groupe, il est composé de 300 combattants, et on ne sait pas trop, mais il semble avoir été composé de 150 couples, 150 véritables couples amoureux. Et parce que ces liens d'amour auraient été des gages d'une grande fougue au combat pour paraître beau devant l'être aimé. Bon, ça nous donne quand même l'impression que l'amour est souvent au service d'un certain fonctionnalisme en tout cas.
Oui, enfin, après il ne faut pas oublier que c'est aussi un effet de source parce que la plupart des sources qu'on a sur cette époque sont littéraires et philosophiques et du coup elles portent une certaine vision de la société, elles ne sont pas toujours très représentatives de la réalité concrète et parce qu'on a des vrais exemples d'amour, Achille et Patrocle, Alexandre et Héphaïstion.
Oui, non, c'est vrai qu'il y a de l'amour, t'as raison. Mais bon, ce sont des cadres qui sont complètement différents de nos cadres à nous. Il y a un mariage en Grèce ancienne, hein. Bon. Aujourd'hui, quand on se marie, c'est parce qu'on s'aime. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, vous vous en doutez, je pense. Parce que pour une jeune fille, se marier, c'est passer de la domination du père à celle du mari, le tout avec des enjeux de circulation du patrimoine derrière. Écoutez ça.
Si les hommes se tournaient vers d'autres hommes, c'était parce que le mariage n'était rien d'autre qu'une union arrangée et dictée par l'intérêt. Les femmes privées d'éducation et séquestrées dans leur logis n'offraient au mari qu'une compagnie limitée, peu de stimulation intellectuelle et un minimum d'expérience érotique. Leur rôle consistait essentiellement à élever un maximum de citoyens mâles.
Ah, mais qu'est-ce que cette voix est radiophonique ? Bon, qu'est-ce que c'est que ça, Clément ?
Eh bien, figure-toi qu'il s'agit d'un documentaire. Génial. La sexualité chez les Grecs. Bon, je ne pouvais pas faire un numéro des pendules à l'heure sans un extrait de documentaire un peu kitsch, hein, quand même. Bon, si vous voulez rire, je vous le conseille. Les passages sur la pédérastie, notamment, valent le coup niveau kitsch.
Mais en fait, il y a quand même du vrai dedans, au-delà du kitsch quand même, parce que les femmes, elles vivent dans le gynécée, elles tiennent la maison et elles s'occupent des enfants. Après, il ne faut pas non plus aller dans le cliché, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles n'ont aucun pouvoir, c'est un peu trop caricatural, parce qu'elles n'ont certes aucun pouvoir politique, mais elles ne sont, parce qu'elles ne sont pas citoyennes, mais... Elle gère visiblement tout ce qui a trait au foyer jusqu'au compte de la maison. Souvent, on a même des textes qui, en fait, qui montrent les femmes comme de bonnes administratrices.
Oui, bah oui, tout à fait. Par contre, le problème, c'est quand elles sortent de ce rôle. Il faut faire attention à ce qu'on peut lire. Parce que en Grèce, quand on n'est pas mère de famille, bah on est prostituée ou courtisane. Ouais. Il n'y a pas 10 000 catégories dans la tête d'un Grec.
Ouais, pas trop d'imagination.
Voilà. Et il y a une femme qui est connue pour avoir déchaîné les passions au 5e siècle à Athènes, précisément parce qu'elle sort des normes.
Ah, mais je suis sûre que tu parles d'Aspasie, alors.
Oui, je me doutais que tu verrais la référence. Alors, Aspasie, c'est une femme qui a été la compagne de Périclès. Et on la décrit comme une courtisane, hein, une courtisane tenant une maison close. Et si l'on en croit Aristophane, le poète comique, elle serait responsable, tenez-vous bien, de la guerre du Péloponnèse. Attention.
Rien que ça. Hein.
Oui.
Oui, bien sûr.
Alors... Des Mégariens, des habitants de Mégare, auraient enlevé des jeunes filles de la maison close d'Aspasie et Périclès, en réaction, il aurait déclenché la guerre. Hein. La guerre à cause d'une catin quand même, c'est ce qu'on lit chez Aristophane.
Oui, rien de nouveau, la femme est pécheresse, toujours ça.
Bah ouais. Et puis le problème, c'est de faire la part des choses dans les sources. Parce qu'Aspasie, je vous le disais, elle sort beaucoup des catégories de l'époque. C'est une femme cultivée qui discute avec les philosophes, avec l'élite intellectuelle d'Athènes. Et sa demeure, c'est un haut lieu de la vie intellectuelle athénienne. Et puis, elle a été la compagne de Périclès quand même. Et pour attaquer quelqu'un, quoi de mieux que d'attaquer des mœurs qu'on juge immorales, hein. Et cette réputation d'Aspasie, figurez-vous qu'elle a la peau dure. Regardez un peu ce tableau qui date de 1861.
Alors, il paraît qu'aujourd'hui, je suis la préposée au tableau kitsch. Il s'agit donc d'un tableau de Jean-Louis Jérôme qui s'appelle « Socrate venant chercher Alcibiade chez Aspasie ».
Et on voit bien tous ces clichés, en fait, parce que Alcibiade est dans les bras d'une Aspasie à moitié nue qui porte une robe rouge, comme vous pouvez le voir, le tout dans des couleurs qui sont claires et chaudes. Et quand vous disiez que ça fantasmait bien sur les Grecs au 19e siècle, plus sérieusement, on a vraiment le sentiment ici que Socrate vient arracher Alcibiade au charme de la belle pour aller faire un peu de philo, finalement.
Ouais, aller bien bosser, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, quand on vous disait que les clichés avaient la peau dure... Hein. Mais puis cette formule, elle marche vraiment très bien dans le cas des Grecs. Hein. On a de ces textes sur les femmes, je vous laisse aller voir. Le seul endroit où elles sont vraiment valorisées, c'est dans le cas de la pratique religieuse. De nombreux temples voient leur culte organisé autour d'une grande prêtresse. Et puis, lors des Panathénées, la grande fête athénienne en l'honneur d'Athéna, les femmes participent activement à la cérémonie. Elles vont tisser un voile pour la statue de la déesse. Bon. En tout cas, elles sont cantonnées à des célébrations féminines. Hein. Faut pas pousser non plus. Hein. Elles tissent un voile ou elles participent activement aux cérémonies invoquant la fertilité. Leur cantonnement, c'est un cantonnement à des tâches féminines. Et ça accroît sûrement leur marginalité politique.
Cette émission touche désormais à sa fin. Je remercie Marie et Clément pour leur travail et surtout pour leur bonne humeur et pour ces magnifiques costumes. Quel plaisir de traiter d'un sujet aussi passionnant avec vous. J'espère, chers auditeurs, que cette émission vous aura plu autant qu'à moi. Merci à vous et à la semaine prochaine.
C'était Transhistorien, merci de nous avoir suivis. Et pour ceux qui n'ont pas pu voir les tableaux dont nous parlions, l'émission, comme le reste de cet après-midi de direct, sera disponible à la réécoute sur notre site transhistor.fr à partir de demain.